La mère du frère Dorian. Nous avons lu ce paragraphe. Je voulais juste ajouter quelques versets bibliques. Je vais lire.
Alléluia. Donc nous continuons la lecture du livre, la partie historique du livre sur les sept âges de l'Église. On était au chapitre 3, page 89. Voyez comment la chose a commencé dans l'Église primitive. On appelait cela des œuvres. Ensuite, c'est devenu une doctrine. C'est devenu la norme. Cela a pris le chemin de l'intransigeance. Cela a fini par prendre le contrôle et Dieu était mis de côté. Oh, cela a commencé si petit, de façon si tranquille, si inoffensive. Cela avait l'air si bon. Cela semblait tellement plein de bon sens. Alors cela s'est installé, et comme un python, cela a étouffé l'Église et a tué tout ce qu'elle avait de spirituel. Oh, cette fausse vigne est subtile. Elle est comme un ange de lumière, jusqu'à ce qu'elle se soit emparée de vous.
C'est comme ça que l'Église l'Église de l'Odyssée, au dernier âge, comme Frère Branham avait dit dans le livre de l'époque de l'Odyssée, avait la lumière qui était petite, considérée à d'autres époques. Mais Dieu, dans sa grâce et dans sa miséricorde, il avait dit que au temps du soir, la lumière sortira. Et c'est comme ça que le message est arrivé. Malachi 4, 5, 6, Élie est venu et il a rapporté la lumière sur le chandelier. Néanmoins, l'état de l'Église, ça va rester jusqu'à la fin comme ça, jusqu'à quand le Seigneur viendra et il détruira toute chose. Je voudrais lire quelques passages de l'Écriture parce qu'en réalité, Israël a toujours cherché, il a toujours eu dans son cœur que quelqu'un puisse le conduire. C'est cet esprit du nicolaïsme. Ça devrait être que chacun de nous puisse avoir une relation personnelle avec Dieu. Au lieu de ça, ils avaient dans leur cœur que quelqu'un puisse être au-dessus d'eux et leur conduire. C'est pour cela que Dieu avait appelé Moïse pour aller à la montagne pour lui donner les commandements. Et Aaron a été obligé de faire les veaux d'or pour Israël. Ce soir, nous ne lirons pas beaucoup, mais nous ne lirons pas beaucoup pour faire tard. On va lire dans Osée. C'est à partir du verset 9. Osée, il parle du péché d'Israël. Alors, chapitre 11, il parle de l'ingratitude d'Israël, des menaces. Il parle d'Ephraïm, comme on avait dit dimanche, que Ephraïm, il était tombé dans l'idolâtrie. Lui qui était dans la jeunesse, le Seigneur lui avait appelé comme premier-né. Mais vous savez ce qui était passé avec Joseph, avec ses enfants, que Jacob avait échangé les mains de ses fils pour pouvoir le bénir. C'est bon. Osée 11, verset 9. Ah non. Osée 13, verset 10. Osée chapitre 13, verset 10. Où donc est ton roi pour qu'il te sauve dans toutes tes villes? Où sont tes juges dont tu as dit, donne-moi un roi et des princes. Je t'ai donné un roi dans ma colère et je l'ai ôté dans ma fureur. Et nous savons quel roi nous avons aujourd'hui, le Seigneur des Seigneurs, le roi des rois. Et notre roi aujourd'hui, c'est l'Esprit Saint qui se repose sur l'Église, sur le corps de Jésus-Christ. C'est lui qui est le roi et c'est lui qui commande et c'est lui qui dirige toutes choses. Quand Moïse était là, il y a un passage de l'Écriture qu'on va lire après. Moïse lui-même, il était roi. Dieu avait dit, Moïse est roi au milieu d'Israël. Quand ils sont sortis d'Égypte, il était comme un roi. Eux, ils n'avaient pas compris cela. Même frère Branham était un roi, mais ça n'a été pas compris. L'Église a toujours continué dans sa manière de voir les choses, dans la manière antique ou la manière catholique, dans la manière des nicolaïsmes, la manière d'agir, de voir. L'Église a toujours continué en cette manière. Et cette chose, comme frère Branham, comme j'ai écrit ici dans Deutéronome 14, Deutéronome 14, c'est une chose claire. Dans l'épouse, cet esprit n'est pas là. Deutéronome 17, 14. Quand tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne et que tu le posséderas et tu y habiteras, et que tu diras, j'établirai un roi sur moi, comme toutes les nations qui sont autour de moi. Tu établiras sur toi le roi que l'Éternel ton Dieu choisira. Vous voyez? Parce que c'est toujours Dieu qui doit établir quelqu'un. C'est Dieu qui établit et c'est Dieu qui conduit et instruit pour pouvoir accomplir son œuvre. La dernière partie du verset 15. Tu ne pourras pas établir sur toi un homme étranger qui ne soit pas ton frère. Tu vois, il y a beaucoup de choses ont été faites. Il y a des groupes des églises locaux ont été fondés sur des bases qui étaient fausses. Et ça n'était pas avec le plan de Dieu ni la volonté de Dieu. C'est pour cela toutes ces. Cette confusion qu'on voit aujourd'hui. Et cette chose, on peut lire aussi dans 1 Samuel 8, verset 5. 'Parce que dans la manière de vouloir un roi ou vouloir un chef, ça a été parlé du pasteur, des chefs. Vous voyez, cet esprit est toujours là. Est toujours. Même s'il y a des lettres circulaires qui ont été écrites, mais qu'est-ce que l'Église a fait de ces lettres? Peut-être ils ont lu ça sur le moment. Peut-être ils ont retenu ça juste pour un peu de temps. Et puis ils ont recommencé à tomber dans la même piège, dans le même esprit du nicolaïsme qui était au commencement. Par exemple, comme il était au commencement, quand il y avait Luther, tout allait bien, même avec frère Branham, tout allait bien. Mais une fois ôté frère Branham, vous voyez, ça a toujours été comme ça. 1 Samuel 8, verset 5. Et vous voyez ici, les personnes disent, c'est comme aujourd'hui, si on disait, frère Franck, tu es devenu un peu vieux, tu t'es fait vieux, on a besoin d'un autre roi. Je ne sais pas si vous comprenez la pensée. Ici, c'était Samuel qui était devenu vieux, ancien. Et lui dire, voici, tu es vieux et tes fils ne marchent pas dans tes voies. Maintenant, établis sur nous un roi pour nous juger, comme toutes les nations. Et la chose fut mauvaise aux yeux de Samuel, qui lui eut dit, donne-nous un roi pour nous juger. Vous voyez, Ici, Samuel déjà était un roi pour eux, parce qu'il leur jugeait déjà. Ils n'ont pas attendu que quelqu'un devait venir. Comme Dieu a dit, si quelqu'un doit venir, moi, je dois vous le donner. C'était Dieu qui donnait. C'était Dieu qui faisait des situations et puis il mettait celui qui voulait. Donne-nous un roi pour nous juger. Parce qu'avant, il y avait Saul. C'était le choix d'un homme. Et puis, il y avait le choix de Dieu et il avait choisi David. Il devait diriger le peuple de Dieu et il devait être un homme selon le cœur de Dieu. Vous voyez? Nous voyons toutes ces choses, tous ces passages d'écriture qui prennent forme durant la marche de l'Église et de l'esprit nicolaïte qui se forme. Toujours dans le livre de Samuel, 1 Samuel 12. 1 Samuel 12, à partir du verset 12. 1 Samuel 12, 12. Et vous avez vu que Nakash, roi des fils d'Ammon, venait contre vous, et vous m'avez dit, non, mais un roi régnera sur nous. Et l'Éternel, votre Dieu, était votre roi. Vous voyez? Le Seigneur, votre Dieu, est votre roi. Vous voyez comme le cœur de l'homme parfois se laisse aller et ne réalise pas ce que Dieu veut lui donner pour son bien, afin que il demeure sous l'onction de Dieu, sous l'onction de la parole, sous le plan de Dieu, le plan qu'il a établi avant la fondation du monde. Il a établi un plan avant la fondation du monde. Il a établi un chemin, mais l'homme a toujours voulu de faire ça et faire de sa manière. Ce sont tous les points comme ça. On peut lire aussi dans 1 Chronique. 1 Chronique 12. 1 Chronique 12, 38. Ici, on voit comme ces guerriers, ces hommes de guerre, vous savez que Samuel est. Après Saul, il était parti oindre David. Et puis, ses frères s'étaient présentés. Et puis, Dieu avait dit à Samuel, toi, tu regardes l'extérieur, mais moi, je regarde le cœur. Vous voyez cette pensée. Dieu connaît le cœur. Il connaît les pensées du cœur, il connaît exactement comment il doit faire la chose. Nous, parfois, avec l'intelligence, oh oui, tu peux dire, il sait faire, il sait parler. Ça a toujours été comme ça, depuis le commencement, depuis la jeunesse jusqu'à quand Dieu a établi que l'épouse sera enlevée. Nous voyons dans le verset 38, tous ceux-là, hommes de guerre gardant leur rang en ordre de bataille, vinrent à Hébron d'un cœur droit pour établir David roi sur tout Israël. Vous voyez? Et puis au chapitre 13, nous voyons que David, il se conseille avec tous les chefs des milliers et des centaines. Nous voyons la collaboration de cet homme vers le peuple de Dieu. Et on voit qu'il était vraiment choisi par Dieu. Toute cette pensée, toutes ces choses toutes ces choses nous font voir. Comme le message est venu pour nous préparer, pour nous faire retourner au premier amour et avoir tout ce qui faisait part de ça. Le Seigneur a restauré Zacharie 14. À la fin, quand il y aura les ténèbres, il y aura aussi la lumière. C'est ce que Dieu a fait. Vous voyez le plan. Vous voyez comment la chose se reconstruit. Les seules personnes, ou la seule personne en Christ, ce qui se tient dans la brèche, sous le seul chef qui est le chef de l'Église, c'est l'épouse de Christ. C'est que lui-même, il a reconnu que l'Église qui a reconnu qu'il n'a pas de chef spirituel sur cette terre. Il y a des vrais conducteurs, il y a des anciens, et ça, on va voir ça plus en avant. Néanmoins, c'est une chose qui marche personnellement avec Dieu. Chacun de nous doit avoir cette communion. Que ce soit une femme ou un homme, une soeur ou un frère, tous doivent marcher ensemble avec un seul cœur, mais individuellement avec le Seigneur. Ça, c'est la volonté parfaite de Dieu. Pas un roi qui doit être là présent. Continue à lire. Vous voyez comme la chose a été commencée dans l'Église primitive. Ça commence avec la doctrine. Après la doctrine, ça devient une chose normale. Ça devient une chose habituelle. Et petit à petit, tu t'éloignes de la source, de l'esprit qui était au commencement. Vous comprenez cela? Dans 1 Corinthiens, chapitre 1, chapitre 2. Il y a les choses qui sont fortes pour nous sont les choses sages devant Dieu. Les choses qui sont sages devant nous sont fortes et de la folie devant Dieu. Toutes ces choses sont des pièges que le diable prépare afin que ceux qui parlent sont. Font part du corps du Christ puisse tomber. Et puis il s'est établi comme un python et il a détruit tout ce qui était dans l'église. Et comme un ange de lumière jusqu'à quand il s'est empossessé de vous. Oui. Au commencement, ça semblait une belle chose, et puis hop, il vous a piégé tous. Et c'est une chose qui peut arriver, et ça arrivera. Et cette différence, aujourd'hui, nous pouvons le voir. Aujourd'hui, marchant avec Dieu, on peut voir cette différence. Que Dieu nous fasse grâce. On peut lire dans 2 Corinthiens 11. 2 Corinthiens 11. On peut commencer à partir du verset 13. 2 Corinthiens 11, verset 13. Car de tels hommes sont des faux apôtres, des ouvriers trompeurs, se transformant en apôtres de Christ. Et ce n'est pas étonnant, car Satan lui-même se transforme en ange de lumière. Ce n'est donc pas chose étrange si ces ministres aussi se transforment en ministres de justice, desquels la fin sera selon leur œuvre. Ce n'est donc pas chose étrange si ces ministres aussi se transforment en ministres de justice, desquels la fin sera selon leur œuvre. Vous voyez, c'est en mouvement, cette chose. Ça marche, elle est là. Et Dieu nous fait grâce avec l'Esprit Saint pour pouvoir discerner les choses. Et quand nous voyons que nous sommes en train d'aller dans cette direction-là, nous nous attrapons encore une fois à Christ afin qu'il puisse nous aider et que lui puisse être à notre force et notre aide. Nous continuons. Et je crois qu'on doit être conduit. Vous devez souligner ces paroles. C'est important. Je crois qu'on doit être conduit. Depuis le commencement, vraiment, que Dieu puisse nous faire grâce. Ça, c'était le commencement du réveil. Et ça n'a pas changé. Au long du chemin, plusieurs personnes l'ont changé. Faites attention. Je ne crois pas qu'on doit être conduit par les hommes, mais par l'Esprit Saint, au travers la parole. À travers la parole. Et je crois que comme Dieu a mis des hommes dans l'Église, des hommes avec l'Esprit Saint, sont eux qui maintiennent, qu'ils gardent l'Église en ordre.
Je tiens, donc on continue la lecture, je tiens pourtant à dire que je crois qu'il faut être conduit, seulement je ne crois pas qu'il faut être conduit par les hommes, je crois qu'il faut être conduit par le Saint-Esprit à travers la parole. Je crois aussi que Dieu a placé des hommes dans l'Église, des hommes qui sont doués par l'Esprit. Ce sont eux qui garderont l'Église en ordre. Je crois cela. Je crois aussi que l'Église est gouvernée par des hommes que Dieu envoie pour remplir cette fonction. Mais il s'agit de gouverner par la parole, de sorte qu'en fait, ce ne sont pas des hommes, les hommes qui gouvernent, mais c'est l'Esprit de Dieu. Car la parole et l'Esprit sont un. Hébreux 13, 7. Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez leur foi.
Mais il s'agit de gouverner par la parole. On dit à Krefeld, c'est Frère Franck qui commande. Non, à Krefeld, c'est pas Frère Franck qui commande. Je parle de Krefeld juste pour prendre l'exemple. C'est la parole qui commande. Vous voyez? C'est la parole. La parole que Dieu a donnée. Et cette parole-là, parce que l'autorité vient de la parole. L'esprit et la parole, c'est la parole. Ce n'est pas un homme qui commande pour dire, il commence à diriger ou à se manifester comme un chef de chantier, je ne sais pas comment dire. Mais à travers la parole, à travers la parole, il conduit. Il continue à lire. Il s'agit de gouverner avec la parole. On montre d'une manière telle que les... Ils ne sont pas des hommes qui conduisent, mais l'esprit. Parce que la parole et l'esprit sont un. Vous voyez? Est-il vrai? Combien de fois nous avons dit ça? Frère Branham aussi a aussi expliqué cela. La lettre tue. Aujourd'hui, beaucoup ont l'esprit. Ils ont l'Esprit Saint. Mais la parole manque. La parole leur manque. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Beaucoup ont la lettre, mais non pas l'esprit. Ils connaissent bien le message. Vous voyez? Dieu doit faire grâce afin que nous puissions comprendre. Sinon, il y a quelque chose qui ne marche pas. Il ne pourra jamais avoir l'effet que nous désirons d'être conduits par l'Esprit de Saint. Quelque chose manque. Tous les deux doivent marcher ensemble. Il doit être la parole, l'autorité de la parole, loin de l'Esprit Saint. Et cela provoque l'obéissance à la parole de Dieu. Ça provoque l'obéissance. Ce que faisait Jésus, ce que faisaient les apôtres. Même Paul, l'apôtre des nations, après les 12 apôtres, même Paul est venu. Frère Branham, quand il parlait du 13e apôtre, parce que après les 12, il y avait un autre apôtre qui était venu, et c'était l'apôtre des nations. Parce que s'il n'y a pas l'esprit qui te fait réaliser cette chose, et tu vas dire, il y a le 13e apôtre, gloire à Dieu, et ça part hors de la parole de Dieu. Il n'y a rien à voir avec la vraie conduite. C'est pour cela, cette parole doit aller comme ça. Je vais encore relire cela et puis nous allons lire quelques passages de l'Écriture. Je dois dire qu'on doit être conduit, mais ici il ne parle pas à lui-même, mais il est en train de parler à tous, à moi, aux frères, aux sœurs. On doit être conduit. C'est Christ qui doit conduire ta vie. Je ne sais pas comment dire, qui doit venir dans ton cœur, qui doit manifester la puissance de l'obéissance de la parole de Dieu. Il y aura toujours l'influence d'un autre. Si c'est pas Christ qui te conduit, il y aura toujours l'influence de l'autre, comme Frère Branham avait prêché. Dieu doit nous faire grâce afin d'être influencé par l'esprit de la parole. La seule influence que nous devons prendre, c'est l'influence de la parole de Dieu, ouais, de l'Esprit Saint. Et là, après cela, nous pourrons obéir. Parce que lui se tient derrière cette parole. Amen. Et puis ça continue. Il continue à lire. Je crois que vous devez être conduit par l'Esprit Saint au travers de la parole. Et je crois que Dieu a mis les hommes dans l'Église avec l'Esprit Saint. Et sont ces hommes-là qui gardent la conduite de l'Église. Et c'est vrai. On peut prendre un exemple maintenant. On peut voir quand il y avait encore Frère Branham dans l'église de Jeffersonville. Voilà. Il y avait encore l'ordre. Il y avait la juste prise de position. L'église était en ordre. Mais si quand l'Esprit Saint, Dieu est au milieu de nous, quand l'Esprit Saint vient dans nos cœurs et dirige la parole, Dieu sera au milieu de nous. Deux ou trois réunis autour de son nom, il est là au milieu de nous. Nous ne sommes pas réunis au nom de quelqu'un. Alors nous l'avons toujours dit. Nous ne sommes pas réunis au nom d'une église particulière. Mais nous sommes réunis au nom du Seigneur Jésus. Et c'est lui le chef. C'est lui qui dirige. C'est lui qui dirige toutes choses. Alléluia. Et je crois aussi que l'Église est gouvernée par des hommes de Dieu qui envoient pour accomplir son œuvre. Mais il s'agit de gouverner au travers la parole de Dieu. C'est là que un zèle doit être suscité en nous pour rester sous contrôle de la parole. Sinon, ça sera fini. En mode, dans une manière telle que, pas les hommes qui conduisent, mais l'Esprit de Dieu. Parce que la parole et l'Esprit sont un. Hébreux 13, verset 7. Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez la fin de leur vie et imitez. C'est dans Hébreux 13, Hébreux chapitre 13, verset 17. Et puis, on va lire dans Deutéronome. Hébreux chapitre 13. Hébreux 13, verset 17. Obéissez à vos conducteurs et soyez soumis, car ils veillent pour vos âmes, comme ayant à rendre compte, afin qu'ils fassent cela avec joie et non en gémissant, car cela ne vous sera pas profitable.
Une petite remarque ici, obéissez. En grec original, c'est laissez-vous persuader. Donc le verbe persuader à la deuxième personne du pluriel, voix passive. Laissez-vous persuader par vos conducteurs, non pas obéissez. Obéissez, c'est une fausse traduction.
Vous voyez? Et puis d'y prier pour nous. Cette harmonie doit être dans l'église. Et ça doit être comme ça. Dans Deutéronome, on peut lire Deutéronome 33, verset 5. Et ici, et puis on va rentrer dans la bonne direction depuis le commencement, depuis la Genèse déjà. 33, verset 33, verset 3. Oui, il aime les peuples. Tous ses saints sont dans ta main. Ils tiennent à tes pieds. Ils se tiennent à tes pieds. Ils reçoivent tes paroles. Moïse nous a commandé une loi. Héritage de la congrégation de Jacob. Et il a été roi. Vous voyez, en Jésus-Rome. Si vous cherchez la traduction de Jésus-Rum, c'est Israël, c'est le peuple d'Israël. C'est le peuple d'Israël dans une belle manière, une manière poétique, comme c'est écrit ici, Jésus-Rum. Quand les chefs du peuple se réunirent ensemble avec les tribus d'Israël, vous voyez, Moïse était roi. Et il a été roi. Ce prophète que Dieu avait envoyé, loin de Dieu, est envoyé par Dieu pour pouvoir libérer le peuple d'Israël de l'Égypte et pour leur faire rentrer dans la terre promise. Pensez-vous que frère Branham n'était pas la même chose? Malachie 4, 5, 6, l'Élie qui devait venir pour restaurer ou pour rapporter pour porter le cœur des enfants à leur père, n'était-il pas un roi? Alléluia. C'est la même chose. Vous voyez les types, comme ça se connecte, comme toutes les choses se mettent ensemble. Et cette chose nous donne la joie. On peut dire, Seigneur, merci pour cette grâce que tu nous as donnée pour comprendre et réaliser ces choses et puis marcher avec cela. Parce que toi, tu es le chef de l'Église, tu es le chef de chaque membre du corps de Christ et tu nous diriges dans toute la vérité. Exactement comme c'est écrit dans Jean 13, 17, vous recevrez l'Esprit Saint et il vous conduira dans toute la vérité. Et aujourd'hui, aujourd'hui, c'est ça, l'onction dans le message, cette onction qui est dans le message nous conduit dans toute la vérité et nous fait réaliser qui nous sommes. Et qu'est-ce que Dieu a fait de nous, la promesse qu'il nous a faite en nous. Vous voyez, ce n'est pas une chose merveilleuse. Continuons à lire. Continuons à lire. C'est déjà 21h. Vous voyez ce qui était passé à cette époque-là? Eux, ils enseignaient que l'Église devait être gouvernée et ils enseignaient qu'on devait soumettre les personnes sous une autorité. Au lieu de le faire dans la manière, à la manière de Dieu, ils ont simplement pris l'autorité. Ils ont pris l'autorité. Ils ont pris tout le pouvoir spirituel dans leurs mains et ils ont porté à l'avoir des saints, des prêtres. Et des gens qui se tiennent entre Dieu et les personnes. Et ils sont retournés au système d'Aaron. Vous voyez? Et vous comprenez cela? Ils sont retournés au système d'Aaron. Qu'est-ce que cela veut dire? Vous pouvez trouver dans Exode 32, quand Moïse était descendu avec les tables, quand il est descendu avec les tables de la loi de Dieu, que Dieu avait écrit avec son propre doigt. Et voyant les veaux d'or que Aaron a été obligé à faire. Et ça retourne là, l'Église retourne là, les gens sont retournés au vieux système d'Aaron. Et puis nous lirons quelques passages de l'Écriture. Ils sont devenus des antichrists parce qu'ils ont rejeté la médiation pour pouvoir mettre la leur. Et Dieu est cela. Pensez-vous que l'esprit dénominationnel, le système, pensez-vous comment Dieu déteste le système? Le système clérical, le système nicolaïte. Et au milieu, ça rentre la politique, le Parlement européen, et nous puissions élargir. Dieu est cela. C'est inutile que nous restons là, nous disons, oui, il se revêtit il peut se revêtir d'ange de lumière. Et ça semble une chose normale, une chose qu'on doit obéir, mais c'est un piège. C'est un piège. Parce que on n'est plus conduit personnellement par la puissance du Saint-Esprit, mais on est conduit par un chef. On est sous un chef. Et c'est comme ça. Vous voyez? Ils sont devenus antichrist. On continue à lire. Autant l'esprit, enlevant l'esprit de Dieu, dans le chapitre 2 de Apocalypse, quand il parlait de l'église d'Éphèse, les Éphésiens détestaient cela. Et chaque vrai chrétien haïra cela. Un vrai chrétien né de nouveau et baptisé du Saint-Esprit, il doit haïr cela. Sinon, Ça veut dire qu'il n'a pas l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu n'est pas en lui. Et je peux le dire, ça c'est l'ainsi dit la parole de Dieu. Quelque chose doit être dans son cœur. Il doit rejeter cela. Il va dire, non, 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 qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Laissons faire le Seigneur. Ne mettons pas, je ne sais pas si vous êtes en train de suivre la ligne de ma pensée. Et dit ça, fermons-nous et retournons à la position quand on était sous la conduite de Dieu et sous l'Esprit de Dieu, sous l'Esprit Saint. Même l'organisation. Moi, j'ai écrit ici système. Dans Apocalypse 13, verset 16, lisons cela, la marque de la bête. Dimanche, nous avons touché cela, mais il y a vraiment beaucoup de choses que nous pourrons dire. Révélation, Apocalypse 13. Et vous voyez ce qu'est la marque de la bête. Apocalypse 13, à partir du verset 15. Et il lui fut donné de donner la... Et lui fut donné de donner la respiration à l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât même, et qu'elle fît que tous ceux qui ne rendraient pas hommage à l'image de la bête fussent mis à mort. Et elle fait qu'à tous, petits et grands, riches et pauvres, et libres et esclaves, on leur donne une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne peut acheter ou vendre sinon celui qui a la marque, le nom de la bête ou le nom de son nom. Ici est la sagesse que celui qui a de l'intelligence compte le nom de la bête, car c'est un homme d'homme et son nom est 666. Nous avons lu ça, nous savons cela, nous avons lu la révélation de Jésus-Christ, les brochures, et nous savons cela, nous sommes rentrés dedans. Ce système dénominationnel, ce système clérical, antichrist, c'est ce que Dieu haït et c'est ce qui se trouve au milieu de nous aujourd'hui. On ne peut pas dire différemment. Nous sommes en train de marcher ensemble, marcher de côté, dans le même pas. Côtoyer. C'est pour cela, c'est écrit, s'il était possible, même les élus seront séduits. Mais c'est pour cela que Dieu n'a pas permis que quand l'homme là, il avait semé la mauvaise herbe, il avait semé la mauvaise herbe, et les disciples ont dit, Maître, tu veux que nous l'arrachons, parce qu'il avait vu. Mais le maître leur dit, laissez qu'ils grandissent ensemble. Et à la fin, et maintenant nous sommes en train d'entrer pleinement. Et nous sommes à la fin. C'est pour cela, ce sont des moments tristes d'un côté, mais c'est aussi un moment glorieux parce que nous sommes en train de nous avancer, d'arriver à l'achèvement du plan de Dieu. Et je dis cela avec tout mon cœur, de tout mon cœur. Plus on va en avant, et plus, si tu te fermes pour regarder un peu dans l'Écriture, tu dis vraiment Dieu a fait quelque chose de glorieux. Et beaucoup sont passés à côté de cela. Mais Dieu nous fait grâce. Et cela est le système. On peut lire aussi dans Jean 15, au Psaume 80. On a déjà prêché sur cela aussi quelques dimanches. Psaume 80. parle de la mauvaise vigne. 80, psaume 80. Psaume 80. Verset 9. Psaume 89. En français, ça commence à partir du verset 8. Psaume 80, verset 8. Tu as transporté d'Égypte un cep, tu as chassé les nations et tu les as plantées. Nous sommes l'Israël spirituel, nous sommes cette vigne qui a fait le vigneron. Les branches qui portent de fruits, le Seigneur coupe pour pouvoir porter plus de fruits. Il nous a fait sortir d'Égypte. Et puis qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont voulu un roi. Vous voyez? Que Dieu nous aide et nous fasse grâce. C'est pour cela, la première Pentecôte, le cœur des enfants vers les pères. Mais dans cette dernière Pentecôte, le retour vraiment à l'original, le cœur des fils vers les pères, ça doit être la dernière, et ça sera la dernière, et ça sera l'achèvement définitif de où Dieu va achever toutes ses promesses au milieu de l'église de Jésus-Christ. Et là où ça sera plus l'homme qui commandera, où l'esprit du nicolaïsme ne sera plus là, il n'y aura plus des papes, mais il y aura un corps animé par l'Esprit Saint sous la direction de Jésus-Christ. Je crois cela. Amen. Nous avons aussi Matthieu 21, 38. Ici, le Seigneur parlait de la parabole qu'il avait achetée. Une vigne et puis l'a laissée au servant. Mais Dieu nous a fait grâce. Je retourne toujours là. Dieu nous a fait grâce. Parce que nous lisons ces choses et nous les voyons parfaitement. Aujourd'hui, c'est vraiment manifeste. Aujourd'hui, plus que jamais, c'est manifeste. Dieu doit que nos cœurs puissent être Si le diable veut quelque chose à prendre en nous, que nous puissions lui donner cela, ce qui lui appartient, parce que nous voulons ce que de Dieu. Dieu nous a laissé un héritage, son esprit, et nous voulons cela. C'est pour cela qu'on doit dire au diable, prends ce qui t'appartient. Plusieurs sont sortis de l'Égypte, plusieurs sont sortis de la confusion, mais vraiment, réellement, leur cœur, réellement, le cœur doit complètement changer. L'esprit du nicolaïsme doit être ôté. Et cet esprit de vouloir avoir un pape ou dirigé par des hommes, sans comprendre que Dieu est au milieu de nous et qu'il veut nous conduire. Et aussi dans 1 Timothée, disons aussi ça, chapitre 2. Cette parole au commencement du message, quand la parole de Dieu a été apportée pour l'unité, aussi pour le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ, parce que le seul médiateur entre Dieu et les hommes, 1 Timothée 2, verset 4, 1 Timothée 2, ça, c'est la volonté parfaite de Dieu. Il veut que tous les hommes soient sauvés. Qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Parce qu'il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Christ Jésus. Qu'est-ce que signifie Christ Jésus ou homme, l'homme Christ Jésus? Qu'est-ce que cela signifie? C'est pour cela que celui qui a le Fils a la vie, et celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Le Fils de Dieu, Jésus, le seul, Christ, l'onction, lui c'est le médiateur. Il n'y a pas un autre. Je ne peux pas aller au Père si ce n'est pas par moyen du Fils. Je ne peux pas présenter mon offrande si ce n'est pas par moyen du Seigneur Jésus-Christ. C'est lui le médiateur qui a gagné et il a gagné la bataille, il a gagné la guerre, il a gagné la mort, le séjour des morts. Et c'est le seul qui peut me donner l'accès à l'héritage éternel. Et si j'ai le Fils, j'ai aussi le Père. Est-ce juste? C'est vrai. Amen. Amen. Jean 14 dit cela. Jean 14. Celui qui me voit, il a vu le Père. Il y a aussi beaucoup de passages. Je vais continuer encore à lire. C'est cela qui a divisé les personnes. Ce que fait la guerre. Ce que fait la guerre au milieu de l'église, c'est cet esprit. C'est pas l'esprit de Christ, c'est l'esprit du nicolaïsme. C'est encore cet esprit qui veut diriger, qui veut prendre la place de l'Esprit Saint au milieu de l'église. Et c'est pour cela il y a des combats, il y a des luttes au milieu des frères. Le peuple de Dieu doit être un. Au moyen d'un seul esprit, ils sont baptisés tous dans un seul corps et l'Esprit Saint doit agir sur chacun. Et virgule, chacun doit participer au culte de Dieu, au service de Dieu. Chacun. N'est-ce pas merveilleux? Je crois que ça, pour moi, c'est spécial. Ça te fait entrer directement dedans. Chacun doit présenter l'offrande, le sacrifice, la prière, l'adoration, le remerciement. Vous voyez, il doit être libre dans son cœur, libre dans son âme. C'est ça, chacun et chacune. Alléluia. Vous voyez, doit participer au service de Dieu, au culte de Dieu. Mais les hommes ont voulu avoir la prééminence et puis ils ont pris le contrôle et à la fin, ils sont devenus archevêques. Et avec leur titre, ils ont laissé la parole de Dieu devant. Ils ont laissé la parole de Dieu. Ils ont mis la parole de Dieu à côté. Ils ont enseigné leur propre pensée. Ils ont porté les gens à leur obéir. Et après un peu de temps, l'église ne ressemblait plus à celle de la Pentecôte. Ces œuvres, les œuvres du nicolaïsme, c'était les œuvres qui ont commencé, c'était le commencement de la succession apostolique. C'était le pas à faire. C'était le pas à faire pour pouvoir après appartenir à une église. C'est pour cela quand le lit de notre temps, le lit de l'époque de Laodicée est venu et moi, j'ai vécu cela en Sicile. Pour pouvoir prêcher au milieu de l'église à Pentecostale, tu dois avoir une carte. Ou tu dois avoir la carte du pasteur que tu as été passé par une école pastorale. Tu as ton diplôme pour pouvoir prêcher. Si il suffisait de prêcher du baptême, il suffisait de prêcher que le baptême n'était pas au nom du Père, Fils et Saint-Esprit, ayant des passages avec toi, si tu disais la première fois, la deuxième fois, il te chassait et c'est fini. Ils ne veulent pas ça. Non, non, on ne veut pas ça. Et c'était comme ça. Vous voyez?
Mais voyez ce qui arrivait à cette époque, cette fausse vigne. acquéraient une emprise et enseignaient qu'il fallait que l'Église soit dirigée par l'homme. Elle enseignait que l'Église devait être gouvernée. Elle enseignait qu'il fallait soumettre les gens à une autorité. Mais au lieu de le faire à la manière de Dieu, ils ont tout simplement pris autorité. Ils ont pris tout le pouvoir spirituel entre leurs mains. Et ils ont abouti à avoir des saints prêtres qui se tiennent entre Dieu et les gens. Ils sont retournés tout droit à l'ancien système aaronique. Ils sont devenus antichrist, car ils ont rejeté sa médiation pour imposer la leur. Dieu haïssait cela. Les Éphésiens haïssaient cela. Et tout vrai croyant le haïra aussi. Il faudrait être complètement aveugle pour ne pas voir la même chose à l'œuvre à travers tous les âges. Et maintenant même, alors que c'est pire que jamais, c'était l'organisation. Voilà ce que c'était. C'est ce qui a divisé les gens. Le peuple de Dieu doit être un. Par un seul esprit, ils sont tous baptisés pour former un seul corps. Et le Saint-Esprit doit agir sur chacun. Et chacun doit participer au culte de Dieu. Mais des hommes ont voulu avoir la prééminence. Alors ils ont pris le contrôle et des évêques sont devenus archevêques. Et avec leur titre imposant, ils ont laissé la parole de Dieu de côté et ont enseigné leur propre doctrine. Ils ont amené les gens à leur obéir. Si bien qu'au bout d'un moment, leur façon d'adorer ne ressemblait plus du tout à celle des premiers temps après la Pentecôte. Ces œuvres étaient le début de la succession apostolique. De la succession apostolique, il n'y avait qu'un pas aisé à faire pour en arriver à faire de l'appartenance à une église le moyen du salut par grâce. La parole était réduite à un credo. Par son esprit, l'Antichrist prédominait dans l'église.
Le passage successif était vraiment proche. La parole était devenue un credo. Au travers de son esprit, l'Antichrist dominait l'Église. Ce n'était pas l'Esprit Saint, mais c'était l'Esprit Antichrist. Vous voyez, c'est pour ça que nous devons faire attention. Que Dieu nous aide et qu'il nous accorde la grâce pour sortir de cela. Et nous croyons que Dieu nous a fait grâce pour pouvoir voir les choses complètement d'une manière différente. Ils sont passés depuis les années 80 ou 70. Vraiment beaucoup d'années sont passées.
Cet âge de l'Église, on est au chapitre 3, page 90. Considérez cela aujourd'hui. Si vous lisez Acte 2, 4, comme certains le font, vous pourriez lire ceci comme ceci. Le jour de la Pentecôte, il vint un prêtre avec une hostie. Il dit « Tirez la langue » et il posa l'hostie dessus. Il but lui-même un peu de vin et il dit « Vous avez maintenant reçu le Saint-Esprit ». Incroyable ! Et pourtant, c'est exactement là que le nicolaïsme en est arrivé. Ils disent « Peu importe ce que dit la parole de Dieu, vous ne pouvez pas la comprendre. Il faut que nous vous l'interprétions. » De plus, la Bible n'est pas terminée. Elle doit changer au fil du temps. Et nous allons vous dire quels sont les changements. Fermez les guillemets. Comme c'est contraire à ce que la parole de Dieu déclare avec insistance, que Dieu soit reconnu pour vrai et tout homme pour menteur, partout où il y a conflit avec la vérité. Le ciel et la terre passeront, mais pas une seule parole de Dieu ne faillira. Le peuple est donc conduit par des gens qui prétendent être ce qu'ils ne sont pas. Ils disent être des vicaires de Christ, mais en fait, ils sont anti-Christ.
Vous voyez, ce raisonnement, vous voyez encore, il y a les gens qui disent non, mais la parole de Dieu, aujourd'hui c'est différent, vu que nous vivons des choses différentes, nous devons ajourner cela, mettre la parole de Dieu à pas avec le modernisme, la modernisation. Peu importe ce que dit la parole de Dieu, vous ne pouvez pas comprendre cela. Nous devons vous interpréter la parole de Dieu. Et aussi, la Bible n'est pas complète. Elle doit être changée avec le temps. Comme c'est contraire de ce que la parole de Dieu déclare. Partout où il y a conflit avec la vérité, le ciel et la terre passeront, mais pas une seule parole de Dieu ne faillira. Le peuple est donc conduit par des gens qui prétendent être ce qu'ils ne sont pas. Ils disent d'être des vicaires de Christ, mais en fait, ils sont des antichrists. C'est écrit dans Apocalypse 4, chapitre 2. Le fait de l'église d'Éphèse. Tu n'as pas fait confiance à ceux qui se disent apôtres, mais ils ne sont pas. Mais voici encore une triste histoire. C'est l'histoire du baptême d'eau. C'est l'histoire du baptême d'eau. À l'époque de Jésus et après la Pentecôte, on immergeait dans l'eau. Personne ne peut nier cela. Des hommes instruits disent qu'on se bornait à verser de l'eau sur eux parce qu'on trouvait facilement des petites mares un peu partout. Et quand ils versent de l'eau sur eux, ils le font au nom du Père, Fils et Saint-Esprit, comme si ces titres étaient des vrais noms et comme s'il y avait trois dieux au lieu d'un seul. Mais restez dans cette organisation et essayez de prêcher la vérité de l'immersion au nom du Seigneur Jésus-Christ et on vous mettra à la porte. On ne peut pas être conduit par Dieu et rester là-dedans. C'est impossible. Vous voyez, au commencement, même dans les prédications que faisait Frère Branham, je ne me souviens pas lesquelles, vous êtes témoin, là où vous êtes. Vous êtes des témoins et pour pouvoir porter la lumière là où vous vous trouvez. Cela est vrai. Mais au fond, à la fin des comptes, si toi tu portes vraiment la vérité, tu ne pourras pas rester là où tu es. Tu ne peux pas rester là-dedans. Peut-être tu resteras une semaine. Tu pourras rester jusqu'à quand ils vont te dire, ah, mon ami, cette chose, nous ne croyons pas ça. Et cette chose a été prise d'une fausse manière. Oh. Tu ne peux pas être la lumière si tu as encore d'autres choses dans ton cœur, ce que l'Église, là où tu appartiens, prêche. Tu ne peux pas être la lumière. Mais si tu as la vraie lumière, tu vas demeurer là juste pour un petit moment et puis tu t'en iras. Vous voyez combien d'interprétations ont été données fausses. Au lieu de mettre chaque chose à sa place selon la pensée de Dieu, ça se portait derrière des gens et les âmes ont été polluées d'une manière à fausse au lieu de suivre vraiment la lumière. Même ici, on doit clarifier cela. On continue à lire Frère Franck. Or, Paul était un prophète enseigné par le Saint-Esprit. Si Paul baptisait au nom du Seigneur Jésus-Christ et qu'il a dit que quiconque agissait à l'encontre de ce qu'il avait prêché était anathème, alors il est temps de nous réveiller et de voir que l'Église n'est plus contrôlée par le Saint-Esprit. L'Église n'est plus contrôlée par le Saint-Esprit, mais elle est contrôlée par les Nicolaïtes. Il parlait de cette manière. Acte 20, 27, à partir du verset 27 et 30. Ici, il parle des anciens. Après le départ de Paul, qu'il y aura des antichrists qui viendront et ils chercheront de mettre faire guerre au milieu de l'Église. Tout ce que nous avons aussi vécu. Car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans n'en rien cacher. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque, pour paître l'Église de Dieu, qu'il s'est acquise par son propre sang. Je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ, les loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau, et qu'il se lèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Vous voyez? Qu'en est-il aujourd'hui dans le message avec cet esprit Nicolaïte? Qu'en est-il aujourd'hui? pour voir un peu ce qui se passe dans le message. Qu'est-ce qui se passe? Que Dieu nous fasse grâce et qu'il nous fasse réaliser cela, afin que nous puissions nous mettre à part avec la parole de Dieu, sans dépendre à des hommes qui peuvent être des personnes importantes, qui peuvent être des gens d'un certain rang, que nous devons les respecter. Avec la parole de Dieu, on ne peut pas jouer. Ici, il s'agit de la vie éternelle. Il s'agit de l'onction de Dieu. Si l'onction de Dieu s'en va, comme il était parti avec Saul, ou parti de Saul, vous savez bien ce qui s'était passé après. Et puis les esprits mauvais venaient sur Saul, et puis ils lui dérangeaient. Et vous voyez, et puis David devait venir pour pouvoir lui calmer. Là, Dieu lui avait envoyé un esprit de garrement, on peut dire. Continuons. Paul leur avis l'a vu venir. C'est à chapitre 3, page 91.
Nous lisons donc le chapitre 3, on est à la page 91. Paul l'a vu venir, mais il les a mis en garde contre cette prêtrise subtile qui allait s'introduire et prendre le contrôle avec ses fausses doctrines. Il savait qu'ils établiraient une forme de culte qui exclurait les gens de toute participation à un ministère du Saint-Esprit. Et même aujourd'hui, parmi ceux qui se prétendent libres et remplis de l'Esprit, les laïcs n'ont pas beaucoup de liberté. Au mieux, on peut voir quelques prédicateurs qui prêchent avec inspiration pendant que le troupeau reste assis là à essayer d'absorber cela. On est là bien loin de Paul qui disait que quand tous se rassemblaient, tous avaient la conduite de l'esprit et tous participaient au culte spirituel. Et le corps de l'Église n'a jamais appris cette leçon, ni des Écritures, ni de l'histoire. Chaque fois que Dieu donne une visitation du Saint-Esprit et que les gens sont délivrés, au bout de quelque temps, ils se tiennent de nouveau, ils se lient. Au bout de quelque temps, ils se lient de nouveau à la chose même d'où ils sont sortis. Quand Luther est sorti du catholicisme, les gens sont restés libres pendant un moment. Mais quand il est mort, les gens ont simplement fait une organisation de ce qui était, selon eux, sa croyance. Et ils ont établi leur propre credo et leurs idées. Et ils ont rejeté quiconque disait le contraire de ce que eux disaient. Ils sont retournés tout droit au catholicisme sous une forme un peu différente. Et aujourd'hui, voilà que beaucoup de luthériens sont prêts à y retourner, complètement. Oh oui, dans Apocalypse 12, cette prostituée avait beaucoup de filles. Ces filles sont tout à fait semblables à leur mère. Elles mettent la parole de côté, elles renient l'œuvre de l'Esprit de Dieu. Elles subjuguent les laïcs et empêchent carrément ces laïcs d'adorer Dieu, à moins de venir à travers elles, ou selon leur modèle, ce qui n'est rien d'autre qu'un modèle d'incrédulité qui vient de Satan lui-même.
Paul l'a vu venir, mais il les a mis en garde contre cette prêtrise subtile qui allait s'introduire et prendre le contrôle avec ses fausses doctrines. Il savait qu'il s'établirait une forme de culte qui exclurait les gens de toute participation à un ministère du Saint-Esprit. Vous voyez, il savait qu'il établirait une forme de culte qui exclurait les gens de toute participation à un ministère du Saint-Esprit. Restons un peu sur cette parole et reflétons. Le ministère n'est pas des personnes, c'est le ministère de Christ, c'est le ministère de Jésus-Christ. C'est lui, loin de Dieu, qui distribue ses biens. C'est écrit, lui montant au ciel, il a fait les dons aux hommes. Lui, son esprit, ce n'est pas la capacité d'un homme ou la capacité d'un homme de faire quelque chose de particulier. Alléluia. Lui, il savait cela. Et ils excluaient. Et même aujourd'hui, parmi ceux qui se prétendent libres et remplis de l'esprit, les laïcs n'ont pas beaucoup de liberté. Non, au mieux, on peut voir quelques prédicateurs qui prêchent avec inspiration, pendant que le troupeau reste assis là à essayer d'absorber cela. On est là bien loin de Paul qui disait que Quand tous se rassemblaient, tous avaient la conduite de l'esprit et tous participaient au culte spirituel. Comprenez-vous? Aujourd'hui, nous pouvons dire que ils sont peu. Je vais finir de lire et puis je vais le dire. Et le corps de l'Église n'a jamais appris cette leçon, ni des Écritures, ni de l'histoire. Vous voyez, chaque Église n'a jamais appris cette leçon. Chaque fois que Dieu donne une visitation du Saint-Esprit et que les gens sont délivrés, au bout de quelque temps, ils se lient de nouveau à la chose même d'où ils sont sortis. Vous voyez? Donc, qu'est-ce que signifie ici quand il dit il y a un seul pasteur qui prêche et tous les autres sont là? Ça veut venir à l'esprit cela. Dieu nous a fait grâce d'avoir un modèle. Et vous pouvez confirmer cette chose, comme un peu c'était à Lausanne ou à Krefeld, même dans cette petite église. Ce modèle qui est décrit dans 1 Corinthiens 14, peut-être quelqu'un se lève et dit quelque chose, un autre se lève et dit quelque chose, tous y sont participent. Pas seulement un qui a inspiré, tous les autres sont là, assises, tranquilles. Vous voyez? Comprenez-vous ce que la signification? Je ne vous vois pas, mais c'est important. C'est vraiment important. Parce qu'il y a un seul modèle. Et ce modèle, c'est le modèle biblique dans la parole de Dieu. Alléluia. C'est pas modèle là où il y a un seul chef, ou là où seulement lui, il a l'inspiration. Et tous les autres sont là, assis, tranquilles, avec leur bouche fermée. Le pape avec tous les autres. Donc cette chose est fausse. Dieu doit nous faire grâce et Dieu nous a fait grâce d'avoir le modèle juste. Que Dieu nous bénisse. Et je crois que Dieu est en train de conduire en cette manière. Dans 1 Corinthiens 14, 26, c'est clair. Vous pouvez lire 1 Corinthiens 14, 26. Même vous pouvez lire 1 Corinthiens 14, les dons, comment sont utilisés et toutes choses, les ministères qui viennent, et puis les apôtres et tout, etc. Ça doit être, ce modèle doit être là. Aujourd'hui, ils n'ont pas encore appris la leçon. Attention. Je dis cela pas pour élever quelqu'un. Cette chose doit être dans toutes les églises locales, dans chaque groupe, là où il y a le mouvement de l'Esprit Saint, là où les uns et les autres sont en accord. Ça, je dis ça pour la gloire de Dieu. Dimanche, on a pu voir qu'il y a l'unité. On ne s'est pas consulté. Mais on a vu comme l'Esprit a conduit toutes choses. Amen. Alléluia. Toutes choses étaient sur le même plan. C'est comme si on jouait de la musique et tout concordait. N'est-il pas merveilleux? Ça doit être comme ça. Il prêche avec l'inspiration, mais quand le troupeau reste assis là, essayons d'absorber cela. On est là bien loin de Paul qui disait que tout sur. Quand tous se rassemblaient, tous avaient la conduite de l'esprit et tous participaient au culte spirituel. Le corps de l'Église n'a jamais appris cette leçon, ni des Écritures, ni de l'histoire. Chaque fois que Dieu donne une visitation d'Esprit Saint et que des gens sont délivrés, au bout de quelque temps, ils se lient de nouveau à la chose même d'où ils sont sortis. Alléluia. Que Dieu nous bénisse et qu'il nous donne. Qui nous donne la grâce de réaliser cela. Il s'agit juste de donner un petit. De donner l'oreille à cet esprit. Et C'est fini. Cet esprit a détruit toute chose. Au lieu de continuer dans le même chemin, l'esprit dénominationnel, l'esprit de l'Antichrist entre et détruit toute chose. Où se trouve 1 Corinthiens 14? Où est-elle vraiment manifestée? Quand Luther est sorti du catholicisme, les gens sont restés libres pendant un moment. Vous voyez? Mais quand il est mort, les gens ont simplement fait une organisation de ce qui était, selon eux, sa croyance. Et ils ont établi leur propre credo et leurs idées. Ils ont rejeté quiconque disait le contraire de ce que disait. Vous voyez, ils sont retournés tout droit au catholicisme. Vous voyez, c'est pour cela, frère Franck, aussi frère Branham, ils insistaient sur que cet esprit du nicolaïsme qui est catholique, s'il n'y a pas une nouvelle naissance, s'il n'y a pas un changement total, et l'esprit de Dieu, la conduite de l'esprit de Dieu, c'est pour cela une maison, si elle reste vide, c'est la maison. Quand est pleine, les esprits qui étaient là avant ils ne peuvent plus rentrer parce que c'est maintenant scellé pour l'éternité, pour le temps et pour l'éternité. Ce qui doit se passer dans l'église ou qui se passe dans l'église, sinon on aurait toujours le même esprit catholique et cet esprit, ça ne part pas de nous. Et aujourd'hui, voilà que beaucoup de luthériens sont prêts à y retourner complètement. On va lire et puis en finir. Dans Apocalypse 13, dans Révélation, oh, Apocalypse 13, 13, 4. Les protestants sont retournés avec les catholiques. Déjà à mon temps, dans les années 70, 75. J'étais en Suisse, il y avait un pasteur luthérien, protestant, qui faisait déjà les cultes dans l'église catholique. Et le prêtre de l'église catholique, c'était le commencement de l'œcuménisme, le commencement de cette union. Le prêtre de l'église catholique, il allait faire culte ou la messe dans l'église luthérienne, ou l'église protestante. C'était le commencement. Aujourd'hui, ils sont retournés. Cette scission, ou cette séparation qui a eu lieu, cette plaie mortelle qui a été faite à la bête, a été guérie. Comme Frère Branham l'avait dit, et vous tous le connaissez, dans Apocalypse, dans Apocalypse 12, cette prostituée avait beaucoup de filles. Ces filles sont tout à fait semblables à leur mère. Elles mettent la parole de côté, et elles renient l'œuvre de l'Esprit de Dieu, elles subjuguent les laïcs et empêchent carrément ces laïcs d'adorer Dieu à moins de venir à travers elles ou selon leur modèle qui n'est rien d'autre qu'un modèle d'incrédulité qui vient de Satan lui-même. Alléluia. Ici, on rentre dans un autre sujet, dans cette incrédulité. Depuis la Genèse, ça a été manifesté. Et c'est là où cet esprit catholique, où cet esprit nicolaïte va. Que Dieu bénisse nos cœurs et qui nous aide, qui nous donne la force de prendre ce que l'Esprit dit à l'Église, parce qu'il s'agit de cela. Et je crois que Dieu nous a fait grâce de pouvoir être introduits dans la vérité et de marcher encore dans cette vérité. Et nous voulons demeurer dans cette vérité, comme on a dit dimanche, dans cette onction, rester dans cette onction. Alléluia. Et c'est là que nous verrons comme Dieu nous utilisera. Il utilisera des frères, des personnes, des sœurs, les membres du corps de Christ pour pouvoir glorifier son nom. Alléluia. Que Dieu nous bénisse, qu'il nous donne la force. Alléluia. Ce soir, nous avons décidé de finir avant, afin que chacun, sinon, en fait, ceux qui sont dans la retraite, eux, ils sont tranquilles, mais les autres doivent travailler. Que Dieu nous bénisse. Prions les uns pour les autres et que Dieu nous donne la force et que ces paroles restent et restent en nous. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Frère Bruno, Josiah. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Patch.